Vous êtes sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette édition du 11 mars 2021 des Apatrides Anonymes. Hey, ça va faire très bientôt 2 ans que nous sommes votre référence, hein, pour tout savoir sur les questions relatives à l'immigration, à la paranoïa sécuritaire et au racisme. Notre première émission à choc, c'était le 24 mars 2019.
Qui l'eût cru?
2 ans, Marie-Ève.
2 ans. Alors, vous venez d'entendre mes deux acolytes, Simon.
Merci, Marie-Ève, de nous accueillir dans ton studio.
Et Mathieu, qui est à la régie présentement.
Bonsoir tout le monde.
Simon va nous amener en Libye et ensuite, en compagnie de Mathieu, qui est, comme je disais, à la régie, ils vont ensemble nous faire un tour de l'actualité des 2 dernières semaines sur les questions autochtones, qui a été particulièrement chargée. Mathieu va aussi nous transporter en Amérique latine et on va aussi vous présenter notre traditionnel agenda militant. Et pour ma part, ce sera des nouvelles fraîches du Moyen-Orient et de l'Europe. On commence en faisant un petit tour au Moyen-Orient, d'abord au Qatar, où la Coupe du monde de la FIFA doit normalement se tenir en 2022. On a appris que depuis que le pays a été choisi comme hôte en 2011, il y aurait 6500 travailleurs migrants qui seraient morts au Qatar, selon une enquête du Guardian. C'est que le pays a mis en branle un immense programme de construction pour se préparer, évidemment, à recevoir la Coupe du monde, et a, entre autres, construit rien de moins que 7 stades, un aéroport et même une nouvelle ville pour accueillir la finale. Et une large proportion des 6500 travailleurs seraient morts sur ces chantiers-là. Le comité organisateur de la Coupe au Qatar affirme qu'une enquête a eu lieu dans chaque cas. Sauf que selon le Guardian, 69 % des morts parmi les ouvriers qui sont népalais, bangladais et indiens sont classés comme naturels par le gouvernement, qui les attribue à des arrêts cardiaques ou respiratoires, sans faire ni enquête ni autopsie.
Et puis, la CSST de la place, c'est pas trop indépendante,
non,
là.
Je pense qu'il manque d'inspecteurs. Puis, ben, évidemment, bon, même si dans certains cas, la chaleur estivale extrême au Qatar est probablement en cause, là, c'est clair qu'il y a un manque de transparence et de rigueur. Quant à la FIFA, ben, elle affirme, sans fournir de preuves, que les accidents sont plus rares sur ces chantiers à elle que sur d'autres sites de construction majeurs dans le monde. Mais encore là, c'est pas la première fois que les conditions de travail dans lesquelles se prépare la Coupe du Monde au Qatar font la manchette. En 2017, il y a le film Workers' Cup qui présentait des camps de travail dans lesquels ces travailleurs pauvres-là sont confinés, alors qu'ils se trouvent quand même dans un des pays les plus fortunés au monde et qu'ils travaillent dans les faits pour préparer un événement qui va générer des milliards de dollars en revenus. Mais au-delà de la Coupe du monde de 2022, il y a aussi des centaines de milliards de dollars qui sont investis pour que le pays devienne une véritable plaque tournante du sport mondial. Il y a eu le Tour cycliste du Qatar, le Grand Prix de moto, l'organisation des Jeux asiatiques, il y a eu des tournois de tennis de l'ATP, des matchs de foot avec les plus grands clubs européens. Sans oublier les championnats du monde d'athlétisme. Fait que dans le fond, le Qatar a même payé des millions de dollars pour avoir Zinedine Zidane comme porte-parole de sa candidature à l'organisation du mondial de 2022.
Il a fait ça gratuitement, on imagine.
Sûrement.
Et on peut leur donner notre Formule 1, hein, s'ils veulent aussi.
On pourrait, oui. Oui, ouais. Oui, de toute façon.
Ça se transporte bien, là.
Oui, tout à fait.
Il y a déjà un Grand Prix du Qatar.
En plus.
Ah, ils pourraient en avoir deux.
Ben, il y en avait un de la moto, mais bon. Puis, il y a quand même certains dans le monde du soccer qui réagissent, là. Il y a le club norvégien Tromsø Hill qui appelle au boycottage de la prochaine coupe en dénonçant la corruption et l'esclavage moderne et considère que si la Norvège se qualifie lors des prochaines éliminatoires, la fédération norvégienne devrait refuser d'y participer. Mm. Autre nouvelle qui est tombée la semaine passée, rapidement, c'est en lien avec un sujet dont Mathieu nous a parlé la semaine dernière à l'émission. C'est officiel, la CPI, la Cour pénale internationale, a décidé d'ouvrir une enquête sur des crimes commis dans les territoires palestiniens par des membres des forces israéliennes, des autorités israéliennes, du Hamas palestinien et d'autres groupes armés palestiniens durant la guerre de Gaza en 2014. Évidemment, hein, les gouvernements israéliens et américains sont pas contents et vont tout faire pour renverser la décision de la CPI. Sur ce, on reste au Moyen-Orient, comme je vous disais, et je me tourne vers Simon, qui est à côté de moi, qui nous parle, je crois, du triste sort des personnes migrantes en Libye.
Du très triste très, sort, très, là. Très. C'est violent. J'ai lu certains articles... J'ai eu de la difficulté à lire. Je l'avoue, je vais vous donner toutes les références tantôt. Donc, on quitte... Bon, on s'en va vers le Maghreb ou, ouais. Je sais pas trop, à la Libye, je pense que...
Nord-Est.
Enfin, à côté de l'Égypte.
Méditerranée.
Méditerranée. Merci, Mathieu. C'est le polo de... toujours de notre émission. Je vais essayer, en quelques minutes, de faire un portrait de la situation actuelle pour les migrants en Libye. Pays, on en parle souvent... quand même, c'est un des grands carrefours sur les routes migratoires vers l'Europe, peut-être le plus important, à partir du Maghreb, évidemment, pour les ressortissants de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. C'est pas le pays dont l'information fiable sort le plus facilement, donc on se fie beaucoup à des sites comme Infomigrants, qui sont assez proches de plusieurs ONG sur le terrain, Infomigrants qui reçoit régulièrement des témoignages directs aussi. Récemment, Infomigrant rencontrait un ancien passeur qui a accepté de se livrer. Il n'y a pas un seul scénario type. Il y a des patterns qui reviennent dans les routes, dans les scénarios pour lesquels les migrants sont confrontés. Il y a des itinéraires préétablis, beaucoup d'organisations très structurées qui opèrent pratiquement librement et des villes qui sont connues comme des plaques tournantes de la traite humaine. Dans à peu près tous les cas, ça commence par une fausse promesse d'amener vers les côtes méditerranéennes. Ça se complique assez rapidement avec violence, ventes aux enchères, il faut le dire au pluriel, parce que ça se produit souvent plusieurs fois dans la vie du même individu. Séquestration, abus sexuels, transfert, aller-retour. Il faut absolument que vous lisiez cet article d'Infomigrant qui s'intitule Un passeur repenti explique en détail le parcours des migrants vendus aux trafiquants en Libye. Donc, c'est un long titre, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Lecture pas facile, mais ça reste juste une lecture. C'est rien comparé à la réalité que vivent les gens. On apprend plein de choses. C'est sûr que le passeur en question nous parle du réseau pour lequel lui, il travaillait, en expliquant les mécaniques, le processus de déshumanisation des migrants, réduit au rang de marchandises échangeables à l'infini. On y parle des différents sites, des bâtiments qui sont connus pour être des passages obligés sur ces routes de l'horreur. On apprend, sans trop de surprise, que ce sont surtout des personnes noires qui sont prises en charge par les trafiquants, souvent dès avant leur entrée en Libye par le Tchad, le Niger ou le Soudan. Donc les trafiquants ou leurs sous-traitants locaux, c'est pas clair, souvent proches des milices locales et des services de police, sont déjà dans les grandes villes de ces pays voisins pour vendre plus ou moins leurs rêves européens. Khartoum, la capitale soudanaise, serait l'un des principaux avant-postes de ce commerce-là. Mais comme je disais, il y en a dans d'autres pays limitrophes et le témoignage qui a été recueilli est un peu biaisé par l'expérience du passeur en question. S'en suivent pour les migrants des voyages interminables sur des pistes dans le désert, tout tassé en pick-up ou dans des genres de minivan, des fois 10 et même 12 dans des voitures dont les sièges ont été retirés. Les migrants sont pris en charge, j'aime pas le mot pris en charge, mais en tout cas vous comprenez ce que je veux dire. Les migrants sont pris en charge par plusieurs groupes jusqu'en Libye, où on les stocke, autre terme que j'aime pas, mais dans des fermes ou des usines désaffectées. Les premières ventes aux enchères commencent à ce moment-là, donc généralement dans la première ville d'arrivée en Libye, donc tout au sud, on est en plein désert. Il y a ensuite différents scénarios possibles, donc dépendamment du pays d'origine de la personne migrante, si elle est un homme ou une femme, jeune ou âgée, en santé ou non, tout ça va influer sur la suite, si la personne va être achetée immédiatement ou si elle peut continuer sa route vers la Méditerranée. Tous ces facteurs-là vont déterminer finalement la valeur marchande des migrants, ce à quoi ils vont faire face. Dans quelles conditions on va les transférer ou les stocker. Donc, en gros, trois scénarios à partir du sud de la Libye, comme je disais. Premier scénario, être vendu et envoyé en stockage ailleurs où on sera probablement revendu à profit. Deuxième scénario, poursuivre sa route migratoire sans garantie, évidemment, de se rendre à bon port. Troisième scénario, n'avoir plus d'argent et ou n'intéresser aucun trafiquant, ce qui veut dire être jeté. Donc, se ramasser à la rue dans une petite ville dans le sud de la Libye. On nous rassure qu'il y a des ressources communautaires burkinabé ou soudanais, ça, séparant différentes communautés plus ou moins organisées qui peuvent donner un coup de main à ceux et celles qui sont jetés sur le bord de la route. Parfois, il y a des foyers d'hébergement très rudimentaires, mais qui donnent quand même un léger répit pour une nuit ou deux avant de devoir laisser sa place aux nouveaux migrants qui arrivent parce que le flux...
Oui, il doit avoir un roulement absolument incroyable.
C'est ininterrompu. Ouais. Ça, le rêve européen frappe fort hein, quand même. Et les gens viennent... Ouais. Avant même de se rendre à Khartoum ou dans la capitale du Tchad, j'ai oublié le nom, il y a déjà parfois des milliers de kilomètres qui ont été parcourus.
Oui, c'est ça.
Pour ce qui est de se refaire une vie, si on a été éjecté de cette logique de trafic humain, ben souvent les migrants en cours de route ont été blessés, parfois amputés, traumatisés, des maladies dues à des infections, à la malnutrition, au manque de médicaments et de soins, et leur statut pas toujours très clair les rend particulièrement vulnérables à toute forme d'exploitation. Un autre phénomène relativement fréquent, on fait subir aux migrants des sévices qu'on filme et qu'on envoie à leurs familles à qui on demande des rançons pour pouvoir les libérer, donc des sommes quand même considérables. Et si l'argent finit par arriver, ben on se doute bien que c'est un leurre, les migrants ne seront pas libérés, évidemment. Donc, peu importe à quelle étape un migrant est rendu, les trois scénarios dont je parlais tantôt, ben ces différents scénarios-là demeurent possibles en tout temps et on peut passer de l'un à l'autre au gré du contexte ou des humeurs des trafiquants. Donc, il n'y a pas nécessairement de logique particulière. On peut passer de jeté à la rue à revendu aux enchères, de revendre aux enchères à la poursuite de sa route migratoire vers la mer ou jeté à nouveau par le système dans un lieu hostile. On peut les empiler comme ça, des fois sur des années. Scénario 4, la mort, qui peut se présenter à n'importe quel moment. Les migrants qui essaient d'échapper aux trafiquants, en général, ils vont pas très loin. On les exécute sommairement. Même chose pour ceux, celles qui se plaignent un peu trop fort. Il y en a qui meurent simplement aussi pour des raisons dues aux conditions horribles dans lesquelles qui ont dû traverser. On se gêne même pas pour jeter les corps à la rue devant des entrepôts de migrants, souvent au vu et au su de tout le monde. Aucune gêne, tout le monde est au courant de toute façon.
Non, c'est ça, c'est vraiment des marchandises, là.
C'est barbare. C'est difficile d'imaginer, même, je pense, de notre confortable Québec, là. Beaucoup de personnes migrantes en Libye sont aussi mortes sous les bombardements, parce que la Libye a connu des épisodes de guerre dans les dernières années. Donc, comme je disais, on peut revenir à la case départ n'importe quand, être retransféré vers le sud. Parfois, il y a des cargaisons de migrants, excusez l'expression, et qui se font voler par des groupes concurrents, des groupes criminels concurrents, pendant des transferts sur des routes dangereuses. Bref, c'est un genre de jeu de serpent et échelle qui peut durer... il y a eu des cas de 10-15 ans. Là, ouais. Et on ne sait pas combien de migrants se trouvent actuellement en Libye, donc le phénomène est difficile à quantifier, mais différentes sources avancent des chiffres qui vont de 300 000 à 1 million.
My God.
C'est une minorité qui finit par atteindre la côte de la Méditerranée, que ce soit à Tripoli ou dans une autre ville portuaire, et les « rares chanceux » entre guillemets qui se rendent jusque-là, ben souvent c'est avec plus rien du tout, plus de biens, plus d'argent, plus de papier, plus de cellulaire, tout a été volé ou simplement confisqué comme monnaie d'échange par les différents intermédiaires. Pour les migrants qui réussissent finalement à embarquer sur la Méditerranée, c'est pas encore gagné pour eux. On le sait d'abord parce que c'est dangereux, ces traversées-là. Il y a plein de morts en mer, mais aussi à cause du fameux accord entre l'Italie et la Libye, dont on tenait à souligner le triste 4e anniversaire. Accord que tout le monde, MSF, Amnesty International, continue de dénoncer en pointant l'Italie comme complice des crimes contre la personne qui sont perpétrés en Libye. Accord qui vise à freiner les arrivées de migrants en Europe et qui surtout a comme effet pervers de repousser vers la Libye ou retenir en Libye, finalement, les milliers de migrants.
Oui, c'est sûr. En tout cas, à la lumière de ce que tu viens d'expliquer, tu sais, c'est encore plus barbare, là, tu sais, de renvoyer des gens vers des... Déjà que c'est une minorité qui réussisse à se rendre là.
Ben oui, on réussit sain
et
à sauf, se rendre...
entre guillemets, là, puis dans quel état, tu sais. Puis là, voyez, on les renvoie là dans cet enfer absolument...
Des fois, ils sont même déjà en mer. Et comme on sait, l'accord, ça fait 4 ans qu'il existe, ouais, entre l'Italie et la Libye. L'Italie a formé les gardes-côtes libyens, les a équipés pour intercepter et refouler vers la Libye. Mm. Avant, c'était plutôt Malte et l'Italie qui se chargeaient de ces opérations-là et amenaient vers l'Europe, finalement, les migrants.
Ouais.
Mais là, on les renvoie vers l'enfer libyen où les 4 scénarios dont je vous parlais, incluant la mort, peuvent se répéter et parfois pour plusieurs années. Mm. Donc, l'Italie est indirectement... directement.
Ah non, directement.
Directement, oh, complice de ça. Il y avait eu une petite mini-volonté cette année de surveiller les conditions de détention en Libye ou de songer à d'autres pays de réinstallation plutôt que de renvoyer vers la Libye. Ça s'était passé en 2020, là, quelques énoncés de principe, mais il s'était absolument rien passé depuis ce temps-là. Mm. Alors, de 2021, j'entrevois pas de changement particulier.
Non.
Il y a rien qui annonce ça pour l'instant.
Ah, oh boy.
Fait que voilà. Je parlais, on commence avec le plus rough, je pense.
Ben, on va aller en musique. On va essayer de digérer, sinon de régurgiter ce qu'on vient d'entendre.
Quelque chose de joyeux, en plus.
Ouais. Ben, en fait, c'est une pièce qui va me permettre de parler d'un documentaire que nous trois, en fait, vos trois apatrides, on a vu. C'est un documentaire qui s'intitule La Cité des Autres. C'est réalisé par Justice Routicaïa. Ça parle de Saint-Pédis, qui est le plus important HLM de la ville de Québec, un peu comme les habitations Jalmans au centre-ville de Montréal, et où vivent justement majoritairement des réfugiés, et où Justice Rudikaya lui-même a grandi. On voit la vie dans cette cité-là à travers les yeux de quatre jeunes en particulier. Vous pouvez visionner La Cité des Autres sur la plateforme tout.tv. Et la pièce qu'on va entendre s'intitule Unis Saint-Pie, et c'est le résultat d'un projet d'écriture collective avec des jeunes de Saint-Pie-10 qui a été chapeauté par l'Évasion Saint-Pie, qui est un genre de groupe communautaire et maison de mélange de maison des jeunes et maison communautaire, avec également la participation du rappeur
qui avait eu des problèmes de financement puis qui avait dû arrêter ses activités longtemps, mais ils sont revenus, ça a l'air.
Ouais. Et donc, c'est aussi avec la participation du rappeur Ahmed S. Adam, alias H.
Et je dois souligner, c'est un très bon documentaire à voir. C'est vraiment intéressant. On voit la vie actuelle, on vient sur le passé, puis c'est assez relax, puis ça défait beaucoup les préjugés sur les HLM, entre autres.
Oui, vraiment beaucoup. Non,
ça regarde vraiment bien.
Oui, puis les jeunes qui sont interviewés sont vraiment super articulés, sont brillants, sont allumés. C'est vraiment, vraiment intéressant.
Mm. Donc, ça s'appelle comment, Marie-Ève?
Unis Saint-Pie.
La Cité des Autres.
Ah, oui!
On peut s'effacer, ils croient qu'on est fou, qu'on se moque de tout, en riant de nous, traînant dans la boue. On est comme vous, mais unique à la fois, c'est pas tout le monde qui se moque des lois. On est souvent sur la coupe des règles, tout le monde voit qu'on fout le mec. On sent prisonnier de l'image qu'on nous donne, édicté à mauvaise personne. Sous les projecteurs sans le vouloir, pour les changements on garde espoir. Plaire à tout le monde c'est impossible, fier d'être la même prix pour ces blondes. Fait que subir ce qu'ils pensent de nous, trop de poids sur le dos, mais on reste debout. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Unis Saint-Pie c'est notre devise. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Unis Saint-Pie c'est notre devise. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. On avait rendez-vous pour cuisiner ses têtes comme Gordon Ramsay. Assis dans le spot en étant posé. Tous les mercredis, on avait rendez-vous pour cuisiner ses têtes comme Gordon Ramsay. Assis dans le spot en étant posé. Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout.
On voyage souvent de porte à porte. Quand en mode beaucoup, on se téléporte.
En Algérie, en Albanie, en Bosnie, en Tanzanie. Je me sens triste quand je pense à la guerre. Je me sens triste quand on détruit la terre. Quand je douche, je parle à mon père. Quand je suis fier, je parle en mer. Dès qu'il y a un bruit, on nous soupçonne. Des préjugés sur nous, y'en a des tonnes. Détrompe-toi, je ne suis pas pourri. Je vis dans le mille comme Stephen Curry. Détrompe-toi, je ne suis pas pourri. Je vis dans le mille comme Stephen Curry. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Unis Saint-Pie c'est notre devise. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Unis Saint-Pie c'est notre devise. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Tous les mercredis on avait rendez-vous pour cuisiner ses têtes comme Gordon Ramsay. Assis dans le spot en étant posé. On avait rendez-vous pour cuisiner ses têtes comme Gordon Ramsay. Assis dans le spot en étant posé.
En parlant de beauté, mais la beauté qu'est-ce que c'est?
Ce qui est beau pour toi ne l'est pas pour lui, comme ce qui est beau pour moi ne l'est pas pour toi.
Qui a dit que la beauté est une question de poids?
Qui
a dit que la beauté était une question de muscles?
Qui a dit que la force était réservée aux hommes? Qui a dit que la douceur était réservée aux femmes? Pourquoi faut-il qu'on nous voit comme des objets?
Le corps de la femme, il mérite le respect.
Contrairement aux objets, elles ont des sentiments. Aime-toi comme tu es, c'est ça qui est important.
C'est la faute du cinéma, la faute des médias. Qu'on croit à perfection, mais la perfection n'existe pas. C'est la faute du cinéma, la faute des médias. Qu'on croit à perfection, mais la perfection n'existe pas. C'est la faute du cinéma, la faute des médias. Qu'on croit à perfection, mais la perfection n'existe pas.
On vient d'entendre Uni Saint-Pie, qui est le résultat d'un projet collectif avec des jeunes de Saint-Pie-10, le HLM de la ville de Québec, dont on vous parlait du documentaire juste avant d'entendre la pièce, documentaire qui s'intitule La cité des autres. Vous écoutez toujours les Apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca. Et avant de céder le micro à Mathieu pour son blog sur l'Amérique latine, je vais me tourner un peu vers les Caraïbes, plus particulièrement la République dominicaine, où le gouvernement semble avoir été inspiré en fait par les obsessions de Trump pour les murs. Le pays a effectivement annoncé qu'il allait commencer cette année la construction d'une clôture, entre guillemets, de 376 kilomètres le long de la frontière avec Haïti. La clôture va être éventuellement doublée dans les secteurs dits plus conflictuel.
Névralgique,
voilà. Et la surveillance va être renforcée par des capteurs de mouvement, des caméras de reconnaissance faciale et des systèmes infrarouges. Rien de moins, là, ça va être la totale.
Comme en Palestine.
Ouais. Oui. Faut savoir que selon les estimations du gouvernement, il y a environ 500 000 immigrants haïtiens qui vivent en République dominicaine, qui vivaient en tout cas en 2018. Ça, c'est les chiffres pour 2018. Et ainsi que des dizaines de milliers de leurs enfants. Une grande partie de la communauté haïtienne, qui représente à peu près 50% de la population totale, a pas de permis de résidence. C'est là qu'on peut souligner, disons, l'hypocrisie du président dominicain Luis Abinader, qui, d'un côté, en fait, il y a à peine deux mois, a promis à Haïti de l'aider à fournir des documents d'identité à ses citoyens et citoyennes qui vivent sur le territoire de Saint-Gomingue, et de l'autre, ben, qui justifie maintenant la construction du mur en disant vouloir mettre fin, entre autres, à l'immigration illégale. Rappelons aussi que depuis 2013, il y a un jugement de la Cour suprême de la République dominicaine qui a déchu de leur nationalité les immigrants haïtiens ainsi que leurs descendants. Donc, voilà.
Même des gens qui sont nés là il y a très longtemps.
Voilà. Ouais. Fait que Mathieu, toi, tu nous amènes en Amérique latine, où exactement?
Bien, sur le continent, on va commencer avec Colombie, Venezuela. Petite nouvelle quand même intéressante. On l'a su au début février. La Colombie va régulariser 1 million de Vénézuéliens, donc dans les prochains mois, prochaines années. La Colombie accueille le plus grand nombre de migrants vénézuéliens ayant fui leur pays depuis 2015 en raison de la crise économique et sociale. Environ 1,7 million d'entre eux s'y trouvent, dont plus de la moitié, 56%, sont des sans-papiers, sans statut. Les autorités colombiennes vont créer un statut de protection temporaire pour ceux-ci et lancer un processus de régularisation de ces migrants, donc dans les prochains mois, prochaines années, a annoncé le président d'extrême droite, Iván Duque, dans une déclaration conjointe à Bogota avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Les Vénézuéliens bénéficieront d'un statut de protection temporaire pendant 10 ans, au cours desquels ils pourront demander un visa de résident s'il décide de rester dans le pays. On ne sait pas si c'est la citoyenneté officielle, là, ça va être à détailler éventuellement.
C'est temporaire, c'est long, 10 ans, là?
Oui, mais c'est un visa de résident. On parle, ouais. Le mot résident est important, par exemple, ouais. C'est sûr. On souligne que ce n'est plus une solution à court terme. Jusqu'à très récemment, le discours gouvernemental était basé sur la prise de mesures temporaires dans l'optique que tout serait résolu quand le régime de Nicolas Maduro tomberait. Ce qui, évidemment, sera pas le cas, puis c'est ça, c'est s'il tombe. Cette annonce intervient après que le président Duque ait été sévèrement critiqué en décembre pour son intention d'exclure les sans-papiers de la campagne de vaccination de masse contre le coronavirus. Il a fait marche arrière finalement, mais a demandé une aide internationale pour vacciner tout le monde. Donc voilà, ça c'est une petite nouvelle qui est passée un peu inaperçue, mais qui est quand même, on en a déjà parlé, des Vénézuéliens en Colombie.
Ouais. Là. surprenant de la part d'un président d'extrême droite, quand même. Hein?
Comme je disais, mais il n'y a pas vraiment le choix non plus.
Non, c'est ça. Je pense que c'est à la fois la pression internationale, mais la pression interne aussi, surtout.
Ouais, ouais. Économique aussi, tant qu'à faire, avec la pandémie en plus et tout ça, donc c'était pas ça. Pérou, donc toujours dans le même coin, nouvelle très récente, l'ouverture début mars du procès de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, poursuivi pour des stérilisations forcées de milliers de femmes pauvres entre 96 et 2000 dans le cadre d'un plan de contrôle de la natalité. Donc, l'ouverture du procès donne espoir aux victimes d'obtenir justice et réparation pour leurs souffrances. On parle donc du Programme national de santé reproductive et planification familiale qui, en théorie, devait se faire sur la base du volontariat. On estime que 272 000 Péruviennes, dont beaucoup d'Autochtones, ont subi une ligature des trompes non consenties. Donc, je vous le rappelle, c'est sur 4 ans. Oui, sur 4 ans.
Sur 4 ans?
Entre 96 et 2000.
Ah oui, c'est ça. C'est récent en plus. Là, c'est pas...
Relativement. Parmi elles, 2074 ont porté plainte devant la justice et 18 officiellement seraient mortes, mais il y en aurait plus des suites de ces opérations forcées. Donc, l'ancien président, qui était là de 90 à 2000, trois anciens ministres de la Santé, deux fonctionnaires sont poursuivis pour atteinte à la vie et à la santé des personnes, blessures graves et violations graves des droits humains. Fujimori, une vieille ordure de 82 ans, qui purge une peine de 25 ans pour corruption et crime contre l'humanité, déjà. Donc, il y a un autre procès à 82 ans pour ça, pour ce plan de contrôle de la natalité.
Oui, c'est ça dans le... Ouais, c'est un drôle de plan comme pour parler de planning des naissances.
Oui, là, oui, un petit peu de génocide là-dedans. Donc, on note qu'outre l'atteinte physique, de nombreuses femmes ont aussi dû affronter le rejet de leur conjoint dans un pays fortement imprégné de culture machiste, évidemment, à l'époque.
Parce qu'il n'était pas capable d'avoir d'enfants.
Ben exactement, s'il n'y avait pas d'enfants, mais c'est sûr, quand tu as été ligaturé. Donc, l'ancien chef d'État n'a jamais demandé pardon ou a fait aucune démarche de réparation. Son successeur, dans les années 2010, n'a jamais respecté sa promesse d'engager des réparations pour les victimes. Il a même gracié Fujimori de sa condamnation pour crime contre l'humanité de 25 ans, avant que les tribunaux ne renversent, et il est toujours en prison actuellement. Donc, outre les éventuelles condamnations pénales, les victimes espèrent pouvoir être indemnisées par l'État dans le cadre d'une réforme du plan de réparation pour les victimes du conflit armé que le Pérou a connu entre 90 et 2000, parce qu'on inclut cette politique-là dans le conflit armé qu'il y a eu à l'époque contre le sentier lumineux, contre les groupes autochtones armés. Donc, c'est un peu dans la même logique. Donc, selon Maria Elena Carbajal, 50 ans, à la tête d'une association de femmes stérilisées dans la capitale et les environs, ce qu'ils ont fait a entraîné la détérioration continue de nos organismes. Beaucoup de femmes sont encore malades aujourd'hui à cause de ces opérations, souvent bâclées aussi. Donc, voilà pour cette nouvelle. Je reste au Pérou pour une autre nouvelle avant qu'on passe à... Un petit indicatif, voilà. L'Organisation régionale des peuples autochtones de l'Est, l'ORPIO, a présenté une demande de mesures de précaution, une pétition devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour dénoncer le gouvernement péruvien qui met en danger la vie des peuples isolés. Qu'est-ce que c'est?
Ouais.
Depuis plus de 30 ans, les organisations autochtones demandent la création des réserves autochtones pour sauvegarder la vie et l'intégrité des Piakvi, c'est-à-dire des peuples qui n'entretiennent pas de contact avec la société nationale, mieux connue que sous le nom de « sans contact ». Quand même pas pire, hein?
Comme les Cuivas à l'époque.
Exactement. Ouais. De nombreux peuples autochtones isolés vivent dans le nord et le centre de l'Amazonie péruvienne, ainsi que dans des zones transfrontalières. Et là, les activités extractives et les infrastructures construites, ainsi que le trafic de drogue, progressent sur ce territoire et entraînent avec eux la menace de la propagation de maladies pour ces peuples qui pourraient provoquer leur extinction.
Ouais.
L'État a officiellement reconnu l'existence de la plupart de ces peuples. Cependant, il n'a pas reconnu leur territoire et encore moins mis en place des mécanismes de protection pour garantir leur intégrité physique et culturelle. On note qu'il y a plus de 20 peuples sans contact dans l'Amazonie péruvienne. Nouvelle intéressante quand même, hein?
Oui. Merci Mathieu.
Ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est que les peuples isolés, on a l'air de dramatiser quand on dit ils vont attraper des maladies, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'anticorps.
Exactement.
Non, c'est exactement ça.
Oui, tout à fait, c'est bon.
Bien, petite note de musique et on vous revient tout de suite. Ces jolies notes sont de Holy Fuck, mesdames et messieurs. Sais-tu de quelle pièce, Simon?
Duo de Toronto. Oui, la pièce, c'est Royal Grigory.
Ah,
le groupe préféré de Stephen Harper.
Ah, oui. On peut pas dire feu Stephen Harper, mais bon. vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez les Apatrides Anonymes. Marie-Ève au micro et Mathieu qui continue sur sa lancée en Amérique latine.
Oui, on va parler des minières canadiennes. Évidemment, c'est un peu inévitable.
Ben oui.
Des compagnies canadiennes. Guatemala, la compagnie Pan American Silver qui est basée à Vancouver. Donc, une situation assez typique. Là, il a toujours été dangereux de se poser à la mine d'Escobal, propriété canadienne, donc au Guatemala, au cours des deux derniers mois. Ça, c'est un article du mois de fin février. 6 membres de la résistance pacifique à la mine Escobal de la compagnie Silver ont subi des attaques et des menaces de mort. Entre autres, en janvier, un monsieur qui s'appelle Arango. Monsieur Arango était victime d'une attaque armée à son domicile par des assaillants masqués, classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, les opérations de la mine ont été suspendues. D'abord par l'action directe de différents campements pacifiques qui ont bloqué les routes, puis par l'ordre des tribunaux de suspendre le projet jusqu'à ce que le peuple Xinka, le peuple autochtone, soit consulté. Des années plus tard, le processus de consultation progresse enfin, mais le conflit qui dure depuis plus de 10 ans et qui a provoqué de nombreuses violences continue de s'aggraver. Pan American Silver attise les flammes en refusant de suspendre les travaux et en organisant des sessions d'information pour les paysans, puis en donnant des cadeaux.
En donnant du chocolat, des brosses à dents.
C'est ça.
Des miroirs.
Son ingérence continue, viole la suspension ordonnée par le tribunal et met les défenseurs du territoire Xinka en plus grand danger. Par exemple, depuis septembre 2020, le Parlement Xinka, il y a une association politique de ce peuple autochtone-là au Guatemala, dénonce l'émergence d'un groupe parallèle autoproclamé Résistance organisée de Casillas qui travaille contre la résistance pacifique de Santa Rosa, qui est le groupe d'opposants. Ce groupe, donc, résistance organisée, dirigé par un ancien garde de sécurité de la mine Escobal, tente de saper les leaderships.
Non, c'est pas un front.
De générer une division, de créer un environnement d'insécurité. Et en plus, les membres de la résistance autonome pacifique soupçonnent que le groupe travaille en coordination avec la compagnie, étant donné que des représentants de la société minière et du ministère de l'Énergie et des Mines ont participé à des réunions avec le groupe dirigé par l'ex-gardien de sécurité. Donc, c'est très, très subtil. Sinon, on va passer à l'Équateur. C'était récemment le 10e anniversaire de la condamnation de la compagnie pétrolière Texas Chevron, fameuse cause très, très connue sur les dommages environnementaux. Et c'est pas le party, malheureusement. Ça s'est passé en 2011. La Cour provinciale a prononcé la première condamnation de la compagnie Texaco, qui est devenue Chevron par la suite, ou qui a acheté Chevron. Après plus de 18 ans de litiges, de procès, on a montré de manière évidente que les 30 000 personnes touchées, appartenant à 8 peuples et nationalités indigènes et à diverses communautés paysannes, que cette décision ordonnait à la compagnie pétrolière de payer une somme de plus de 9,5 milliards de dollars pour réparer les dommages causés par ses activités. Cette sentence a été ratifiée par toutes les instances juridiques équatoriennes, y compris par la Cour constitutionnelle en juin 2018, qui disait que c'était imprescriptible et sans appel, que c'était fini. Deux mois plus tard, la compagnie refuse toujours de se conformer à la sentence. Au contraire, elle a décidé d'activer tout un système qui garantit l'impunité des transnationales. Ces actions comprennent notamment 3 arbitrages internationaux qu'elle a intenté contre l'État équatorien. Et deux mois après le jugement, en août 2018, un tribunal d'arbitrage a émis une sentence favorable à la compagnie, qui prévoit notamment que le gouvernement équatorien prenne toutes les mesures nécessaires pour obtenir la nullité du jugement et pour empêcher les plaignants de cette affaire, les 30 000 personnes, de procéder à l'exécution du jugement dans d'autres juridictions.
Genre de loi Bayon. Là,
oui. Puis c'est des tribunaux d'arbitrage genre de l'OMC ou des trucs comme ça. Ce qui est un peu particulier, c'est que le gouvernement actuel de Lénine Moreno, en Équateur, contre toute attente, se conforme à la sentence. Et cette situation est aggravée par le fait que l'affaire Chevron a fait partie des négos préalables à l'accord avec le FMI, ouvrant la voie au paiement de millions en compensation à Chevron au moyen du prêt du FMI donné à l'Équateur.
Ben oui, c'est incroyable. Tout est dans tout, hein?
Et je termine.
Oui.
Oui. Avec ensuite, les victimes ont essayé justement d'aller ailleurs, faire d'autres revendications. Et en septembre 2020, tout récemment, un tribunal néerlandais a rendu jugement de première instance en faveur de Chevron et contre l'État équatorien, même s'il y a eu le soutien de plus de 240 organisations internationales qui représentent des millions de personnes. Finalement, l'État équatorien a décidé d'embarquer et de contester la décision aux Pays-Bas. Mais il faut dire que c'est vraiment incroyable.
Non, c'est une espèce de saga absolument.
Puis il y a des gens qui s'en rappellent, c'était symbolique. 9,5 milliards de dommages environnementaux contre les Autochtones, mais finalement, ils gagnent là, partout. Il y a même des compensations à travers la famille, l'État équatorien. C'est incroyable. Je ne savais pas tout ça.
Non.
En tout cas, on va suivre ça.
Ben, merci, Mathieu, en tout cas, d'avoir défriché toutes ces informations-là.
Puis, j'ai plein d'informations sur la Colombie parce qu'il se passe beaucoup de choses et sur, malheureusement, les assassinats de militants sociaux en Amérique latine, même au Costa Rica. Fait que j'en parlerai dans une prochaine émission.
Oui, parfait. Ben, parlant de militants, on va traverser l'Atlantique pour se rendre en Espagne où, imaginez-vous donc, la dernière statue du dictateur Franco à se trouver encore dans l'espace public a été démantelée. ça s'est passé sur le territoire africain, dans l'enclave de Melilla. La statue avait été installée en 78, soit 3 ans après la mort de Franco. Mais bon, c'est pas parce qu'on déboulonne des statues de dictateurs qu'on peut se targuer d'être une démocratie.
Oh hein? Non!
Si vous avez suivi un peu les infos dernièrement, vous avez sûrement vu les images d'émeutes qui ont fait rage, particulièrement à Barcelone, mais aussi dans d'autres villes espagnoles, pendant plusieurs jours là, pour protester contre l'arrestation et l'emprisonnement du rappeur catalan Pablo Hasél, qui a été condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme, pour avoir traité le roi Juan Carlos Ier de mafieux. Ben non, ça doit être tellement pas vrai. Et
peut dire ordure aussi.
Aussi pour avoir fait l'éloge de personnes impliquées dans des attaques et avoir accusé la police d'avoir tué et torturé des migrants et des manifestants. Donc, depuis le début des manifestations à la mi-février, des centaines de personnes ont été arrêtées. Mm-hmm. Plusieurs ont été blessées, dont au moins une jeune fille qui a perdu l'usage de son œil après un tir de balle de caoutchouc. Donc, en solidarité avec la jeunesse protestataire qui tient tête à des gouvernements corrompus, illégitimes et répressifs un peu partout dans le monde. On écoute Pablo Hasél avec la pièce Nuestras Libertades.
La cárcel es otra trinchera, seguiré aportando, no me veréis derrotado fascistas, no podréis evitar que miles y miles resistan, seguiré revolucionario, apoyando a revolucionarios, lo que digo lo piensan muchos en los barrios, las injusticias tienen unos culpables criminales y siempre voy a señalarles, es por nuestros derechos, nuestras libertades. Irán a por más si no los paramos, forrados con sangre inocente en las manos. Quieren esposar la nuestra que escribe, o reta mi libreta libre, la conciencia es mi líder. Firme, si teméis que el pueblo piense, no voy a rendirme, os ahorro el suspense. Coraje no falta, la razón está a mi lado, con el puño cerrado y la cabeza alta. Es su venganza por golpearme tanto y no verme doblegado, si sin tregua los ataco. Si lo que hago empujo a miles a luchar, sin democracia como Juan Carlos tragando caviar. Contando con tu apoyo porque sabes que es un ataque contra nuestras libertades. Cabeza de turco pa' callar al resto contra lo injusto impuesto. No me asusto, protesto sin darles el gusto, el manifiesto no rebajo. Y contra la tiranía del rico dedico trabajo. Resistir es bello, aun con el agua al cuello. Si no retrocedemos, pierden ellos. Hipócritas encarcelan por usar la palabra, luego llaman violencia a que la calle arda. Y llenan de terror todo el globo terrestre, la policía que me secuestre, ir armada. Fachas con total libertad lo celebran, pero el mensaje se expande, la tienen negra. Va a adelantar el fin de su estado putrefacto, la República Popular ya devolverá el impacto. Me parto, si creen que así me derrotan, ya quisiera la dignidad de esta boca. Apoyarán a quien los explota y saquea. Yo jamás voy a pintar como champán la diarrea. Esto literalmente me salvó la vida. No vendrá su muerte a dictarme lo que escriba. Si golpean fuerte no me verán blando. Que esto despierte y no salgan ganando. Llevé a la práctica lo que rapeo. Mi rabia apática no
mano será su trofeo. Luchar es un honor al que no renunciaré. Si abrimos los ojos nos ciega nuestra fe. Gritemos por los silenciados, por los que mataron. Por eso empecé y aún lo tengo más claro. No hace falta que pienses igual que yo para ver el grave atropello que se cometió. Te han condenado por contar realidades ocultas, probadas como negocios criminales que los lucran. Fomentan racismo, machismo, homofobia. Luego prohíben al que todo eso odia. El régimen es un abusón crecido. Necesita hostias que lo dejen menos tranquilo. No pienso callarme porque al callarme pienso. Con arsenales de argumentos no me siento indefenso. La voz no se enciende. Idiotas, ¿qué queréis? Esto no es otra guerra con la que se forra el rey. No aceptes que sea legal que nos saquen millones e ilegalicen hasta llamarlos ladrones. Este himno es por quienes estáis conmigo y salís a las calles sin ser pueblo dormido. Porque han jodido al colectivo, no solo a mí. Con individualismo no podremos salir. Mare, aunque se nos separe a la fuerza, que el dolor sea rabia y jamás nos venzan. Someternos con miedo su plan, pero si salgo más fuerte, no ganarán. Escucha bien, estado criminal, con miedo a todos jamás nos callarás. No estamos solos, cada día somos más. Me haces pagar un precio muy caro, pero también lo pagarás dando volumen al mensaje que temes y quieres silenciado. Creando conciencia que se transformará en lucha organizada, adelantando el fin de vuestra dominación que nos desangra. Entonces añoraréis que usemos la palabra que ni permitís. La sangre azul teñirá el cielo gris. En prisión la dignidad siempre será mi vis a vis. No vais a doblegarme escoria, tampoco al pueblo que en la calle os odia. Estás nervioso porque tiene los años contados y lo sabes. Como sea y donde sea, ante ataques tan graves.
Oui, vous venez donc d'écouter Pablo Hasél avec la pièce Nuestras Libertades sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. Juste avant la pièce, Mathieu nous a fait tout un bloc sur l'Amérique latine et pendant lequel il a été beaucoup question des peuples autochtones d'Amérique latine. Donc, on va continuer avec des actualités autochtones, mais ici, cette fois-ci. Et Simon...
En Amérique du Nord.
Oui, c'est ça.
Donc, effectivement, ici même, là, même au Québec, on peut dire. Ouais. Donc, on va aller dans le gros dossier de l'eau sur les réserves autochtones. Problème de plomb dans l'eau des écoles, des garderies, surtout au Québec. Il faut distinguer ce problème-là du plomb, du problème général de l'eau potable sur les réserves au Canada, parce que le problème, c'est pas la qualité de l'eau. C'est de l'eau potable qui est propre à la consommation, qui circule dans les canalisations, mais qui passe par des sorties d'eau en plomb ou parfois en cuivre, qui contamine l'eau à la dernière minute, juste avant d'être consommée.
Okay.
Donc, finalement, c'est un problème qui s'ajoute au grand dossier de problèmes d'acheminement de l'eau potable tel qu'on le connaît dans les réserves autochtones. Donc ça prenait ça, tu sais, pour rajouter... Bref, il y a un consortium qui a obtenu des données de 2017 qui indiquent que des enfants des Premières Nations au Québec ont régulièrement bu de l'eau contaminée par le plomb, ce qui est très, très mauvais pour le développement de leur cerveau. On ne sait pas depuis combien de temps l'eau était contaminée comme ça. Le gouvernement fédéral, qui est le palier qui a fait les tests, sait où se trouvent les concentrations excessives de plomb, mais il remet toute la gestion de ce problème-là dans les mains des administrations locales. Pour donner une idée de l'étendue du problème, en 2017, 16 % des points d'eau potable avaient une concentration de plomb excédant la norme de Santé Canada. Dans la moitié de ces points d'eau problématiques, on avait plus de deux fois la quantité de plomb jugée acceptable. Tout ça s'est mesuré en microgrammes de plomb par litre d'eau. La norme maximale est 5 microgrammes et la plus grosse concentration qui a été mesurée, tenez-vous bien, 151 microgrammes de plomb ou 30 fois la quantité acceptable. Excusez.
Là, entre ça, puis prendre un grand verre de plomb pur, il n'y a pas grande différence.
Ben, il était liquide quand même, donc il était ingérable. Ça se dit-tu?
Enfin, Iningérable.
Ininflammable. Là où des concentrations excessives ont été mesurées, des fonctionnaires suggéraient simplement de laisser couler l'eau 10 minutes chaque matin.
Oui.
La vieille méthode qu'on appelle le rinçage, une solution qui n'est pas efficace selon les experts. Le rinçage serait seulement efficace si on fait couler l'eau 2 minutes, mais avant chaque consommation, ce qui est complètement inapplicable dans une garderie ou dans une école avec plein d'enfants qui courent partout. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, tout condamner et fournir de l'eau en bouteille ou installer des systèmes de filtration ou encore carrément
changer la plomberie.
Changer la plomberie, voilà. Mettre aux normes les bâtiments, mettre aux normes la plomberie pour régler définitivement le problème. Dans la plupart des cas, les parents n'ont pas été mis au courant et beaucoup des gestionnaires actuellement en poste 4 ans plus tard, paraît-il, ne sont pas toujours au courant non plus. Donc, allô le rinçage. Mm-hmm. Donc là, il y a différents intervenants, dont la CSQ, qui a publié un communiqué fin février pour rappeler à l'ordre les gouvernements en demandant au fédéral de refaire les tests partout, parce que ça date déjà d'il y a 4 ans. D'être transparent cette fois-ci, donc que l'ensemble du processus et des données soient publiques et arriver avec des protocoles clairs. Donc, à tel endroit, il y a tel problème, il y a tel niveau de plomb et on indique quelles mesures à appliquer ou on débloque les budgets pour, comme tu disais, on remplace la plomberie. Hein.
Aller à la source du problème?
Voilà. La CSQ demande aussi au provincial de faire pression sur le fédéral via son secrétariat aux affaires autochtones. C'est tout le temps le fun, les dossiers autochtones, parce que c'est la loi fédérale qui en chasse le tout, mais les écoles, par exemple, ou le service de santé, les garderies, tout ça,
c'est provincial.
Alors, c'est un magnifique jeu de ping-pong à chaque fois. Quand, vers 2019, le provincial a constaté des taux de plomb alarmants dans les garderies et les écoles dans l'ensemble, en général au Québec, ça n'a pas niaisé. Il y a eu des tests à grande échelle et les problèmes ont été réglés. Là, dans le cas des services aux Autochtones, 4 ans après avoir constaté le même problème, il n'y a à peu près rien qui s'est passé, sauf proposer des solutions boboches qui n'engagent aucune forme d'investissement.
Ouais.
Est-ce que je continue ou parce que...
Ah, t'aurais le temps d'un petit 30 secondes, mais maximum.
30 secondes, c'est pas assez pour vous parler de la rivière Magpie et son nouveau statut juridique.
C'est un gros dossier quand même.
Je le garde pour la prochaine émission. C'est quand même très intéressant, je trouve. Puis c'est une bonne nouvelle. On se garde ça pour le dessert, mais pour une autre fois.
Bon. Merci, Simon. Petit retour en quelques notes de musique et on revient avec Mathieu. Toujours sur le même sujet. C'était encore Holy Fuck, comme le disait Mathieu, le groupe préféré de Stephen Harper.
Oui, ils avaient fait des grosses pressions pour qu'ils changent leur nom.
Oui, c'est ça.
The First Stephen Harper.
Comment, Simon?
The First Stephen Harper.
Oui. Et alors, Mathieu, toi, tu poursuis aussi sur l'actualité autochtone.
Entre autres, projet minier Matawini, un pas en arrière dans la réconciliation, dit la communauté de Manawan. Le gouvernement Legault, en toute subtilité, a annoncé dans les pages de la Gazette officielle le 10 février qu'une autorisation avait été délivrée à Nouveau Monde Graphite, quel beau nom de compagnie, afin qu'elle puisse aller de l'avant avec son projet de mine à ciel ouvert. La compagnie compte démarrer ses activités de construction à la fin 2021, même si des études d'impact environnemental sont toujours en attente. L'immense chantier, le plus grand projet minier de graphite en Amérique du Nord et en Europe, se trouve pourtant sur le Nitaskinan, le territoire ancestral qui fait l'objet de revendications de la part des Atikamekw auprès des gouvernements fédéral et provincial depuis
Nitaskinan,
il y a un cas. En tout cas, je ne sais pas si ne faut pas le prononcer, mais Nitaskinan.
Mais c'est peut-être une autre
communauté, hein. Donc, à la fin juin 2020, le BAP avait pour sa part demandé que 8 nouvelles études soient menées. Il avait souligné par le fait même l'existence d'enjeux d'acceptabilité sociale encore importants. Et depuis des mois, les relations entre la communauté Atikamekw de Manawan et la compagnie sont au point mort. La société affirme de son côté avoir investi du temps et des efforts pour collaborer activement avec la communauté locale de Saint-Michel-des-Saints ainsi qu'avec la Première Nation Atikamekw. Ça fait un peu comme au Mexique ou en Amérique latine. Un peu moins violent, mais quand même.
Ouais,
le 2 mars dernier, un groupe d'opposants au projet minier et aussi aux coupes forestières qui sont problématiques dans la Naudière a bloqué brièvement la route entre Saint-Michel-des-Saints et Manawan. C'est le groupe Mobilisation Matawini Ekoni Hachi qui est à l'origine de ce barrage.
Peux-tu répéter, s'il te plaît?
Saint-Michel des chiens.
Hey, okay. Il y a le cabotinage.
Donc, le groupe demande un moratoire de 5 ans sur les coupes forestières et l'annulation du permis pour la minière, la mine de graphite. On assure que les actions vont se poursuivre, et ce, partout dans la province, dans les semaines et les mois à venir. Donc, on verra. Sinon, ben, toujours là-dessus, alors que les autorités municipales sont en faveur de la mine, des citoyens craignent d'éventuelles répercussions sur l'environnement, notamment sur le lac Taureau. Donc, il y a les autochtones, il y a les citoyens aussi autour de Saint-Michel-des-Saints. Je l'ai bien eu. De son côté, le conseil de Manawan souhaite obtenir des dizaines de millions de dollars en redevances et des emplois garantis pour les membres de sa communauté.
Ce qui est une demande légitime.
Et historique. Sinon, pour l'Association pour la protection du lac Taureau, elle redoute que les déchets qui seront entreposés sur le site de la mine ne contaminent le plan d'eau, c'est-à-dire un très grand lac. Pour produire 100 000 tonnes de concentré de graphite par an, la minière devra extraire environ 20 fois plus de matière, puisque son gisement a une teneur en graphite d'un peu plus de 4 %.
Ouf, c'est pas
beaucoup, hein?
Non.
Donc, ça devrait commencer en 2023 après les travaux officiellement, pendant 26 ans. Donc, la mine va comprendre une fosse à ciel ouvert d'une longueur de près de 3 km, d'une largeur de près de 400 mètres et d'une profondeur de 235 mètres. Le graphite entre dans la composition des anodes qui sont utilisées dans la fabrication de certaines batteries lithium pour des véhicules électriques. Hein? Mais la compagnie n'a aucun contrat qui a été signé avec aucun producteur ou aucun fabricant.
Oui, mais mon oncle Legault a dit qu'on serait la batterie verte de l'Amérique du Nord bientôt. Là.
Oui, c'est Fitzgibbon qui a dit ça aussi. Fitzgibbon. Le projet de 350 millions de dollars devrait créer 160 emplois directs. Et évidemment, les groupes qui s'y opposent craignent notamment l'impact sur l'industrie touristique et environnementale. Parce que c'est un coin de villégiature aussi, en plus de la question de l'environnement. En 2020, le BAP avait recommandé au ministère de l'Environnement d'attendre les résultats d'une étude hydrogéologique visant à valider l'efficacité de la méthode employée par l'entreprise avant d'autoriser le projet. Parce qu'ils utilisent un procédé qui est unique, qui est nouveau, qui n'a pas été essayé ailleurs en plus pour contenir les déchets. Et je finis en citant donc l'Association pour la protection du lac Taureau. On pense pas qu'on puisse continuer de faire les choses de cette façon-là en 2021. Ils ont imaginé une façon de contenir les déchets qui n'a pas été éprouvée nulle part. Donc, c'est de l'improvisation,
ben oui,
c'est du
Lego,
c'est du Fitzgibbon, c'est une compagnie, trouver un gisement, c'est un territoire autochtone, c'est près d'un lac. C'est pas grave, il y a une façon de fonctionner qui fonctionne, qu'on sait pas si ça va fonctionner pour les déchets très acides avec le graphite.
Ben oui, c'est ça.
Mais c'est pas grave. On commence les travaux dans quelques semaines, cherche une job.
Hey, merci vous deux pour ce tour d'horizon vraiment instructif et très, très complice. C'est peut-être pas exhaustif, mais quand même, il y a beaucoup de stock.
Ouais.
Pour ma part, je reste en Europe, où la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Hongrie pour traitement inhumain et dégradant envers une famille de demandeurs d'asile irano-afghanes. Les faits qui sont proprement sordides remontent à 2017, année où la famille qui compte 3 enfants, avait été placé dans une zone de transit. D'abord dans un conteneur de 13 mètres carrés après avoir déposé une demande d'asile. Puis, comme certains membres de la famille ont testé positif à l'hépatite B, mais toute la famille a été déplacée dans un autre conteneur en isolement. Et comme si c'était pas assez, en raison du fait qu'il demandait l'asile pour la 3e fois, le père était pas autorisé à recevoir de la nourriture des autorités, selon même l'application, la législation hongroise. Il devait donc se nourrir principalement de restes qu'il trouvait dans les poubelles. Donc, dans son jugement, la Cour souligne que, comme il pouvait pas quitter la zone, le père de famille dépendait totalement des autorités hongroises et qu'il n'avait pas eu accès, un accès adéquat à la nourriture. Les juges ont donc conclu à l'unanimité à une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le jugement s'applique aussi aux enfants et à la mère qui, elle, était enceinte. Dans leur cas, la Cour a dénoncé la chaleur et le manque de ventilation dans le lieu d'hébergement, le fait que les lits n'étaient pas adaptés pour des enfants, l'absence de soins médicaux et psychiatriques adéquats, ou même la présence d'agents de sexe masculin lors des examens gynécologiques pour la mère. Les juges ont également condamné à la majorité à une violation du droit à la liberté et à la sûreté, estimant qu'il n'existait pas de base légale strictement définie là, qui autorise la détention de cette famille-là. Donc, la Hongrie a été condamnée à verser 4 500 € à chacun des enfants et 6 500 € à chacun des parents pour dommage moral. On verra si la Hongrie fait appel de cette décision. Et surtout, je vais me tourner vers Simon pour son calendrier militant, mais en vous proposant moi-même d'abord un événement qui s'intitule le spectacle de Montréal-Nord, images, médias et sécurité. Et malgré, contrairement à ce que laisse penser son titre, l'événement n'est pas un spectacle, mais bien un webinaire qui va se pencher notamment sur le traitement sensationnaliste et spectaculaire, justement, que les médias réservent aux problématiques vécues dans ce quartier-là. L'événement en ligne est présenté par Parole d'exclus et se tient jeudi le 18 mars, donc la semaine prochaine, à 18h. Il fait partie d'une série de webinaires qui vont se tenir là, jusqu'en juin.
Oui, ben moi, tout ce que j'avais proposé, c'est pas mal tout en ligne aussi. On n'est pas complètement déconfiné.
Non, pas à Montréal, en tout cas. L'été s'en vient.
Conférence en ligne demain, vendredi 12 mars, 19h30, organisée conjointement par Solidarité sans frontières et Criminalization and Punishment Education Project, on va dire le CPEP, groupe militant des universités d'Ottawa et Carleton. On cherchera à déterminer pendant cet événement en ligne ce que le mouvement abolitionniste peut apprendre du mouvement contre la détention des personnes migrantes. Donc demain, 19h30, et l'événement qui est seulement en anglais s'appelle Lessons from the Border. C'est la semaine contre l'apartheid israélien la semaine prochaine, 17e édition, 14 au 22 mars. Tout est en ligne aussi, une semaine de conférences, d'ateliers, de projections, de manifestations pour souligner la campagne BDS, boycott des investissements et sanctions. Le thème cette année est « Unis contre le racisme ». Il y a une page...
FB,
bravo! Tout converge pas mal autour de ça. Sinon, il y a aussi l'adresse courriel pour vous informer, apartheidweekmtl@gmail.com.
Et c'est partout dans le monde, hein, Simon?
Oui.
C'est partout dans le monde.
C'est une semaine internationale.
Oui, et aussi, même aux États-Unis et en Israël.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a de la résistance là aussi. Lancement virtuel de Ababar, lancement virtuel de leur 87e numéro Ababar, le thème La police, à quoi ça sert? Écoute, tu réponds avant même que les activités aient eu lieu ou d'avoir lu le numéro, Marie-Ève, t'es pleine de préjugés. Donc, Ababar vous invite à son lancement virtuel du numéro La police. À quoi ça sert, Marie-Ève? rendez-vous le jeudi 18 mars à midi. Seront abordés des thèmes comme à qui et à quoi sert la police, quel ordre et quelle sécurité maintient-elle, que faire de la police. Donc, on constate beaucoup de questions en lien avec le définancement de la police. L'édition virtuelle du 18 mars va prendre la forme d'un dîner-causerie animé par Adèle Clapperton-Richard en compagnie de membres de Montréal sans profilage et d'Alexandre Popovic, beaucoup d'autres invités aussi. Je rappelle, lancement virtuel du prochain numéro d'Ababar, jeudi prochain, 18 mars, midi, en ligne. Ça fait une couple d'émissions. On voulait plugger la chaîne YouTube de Fabrice Ville, qui est complètement gratuite. Déjà 6 épisodes de Sac passé qui sont disponibles gratuitement pour être visionnés. Sac passé, ça voudrait dire « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » si on traduit du créole au français. C'est des longues conversations, 1h15, 1h30, sur le racisme, l'égalité des chances, avec différentes personnalités, comme à date le rappeur Imposs, la commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal, Boshra Manay, Rito Joseph, historien et guide touristique dans le Vieux-Montréal, entre autres. Tout ça sur la chaîne YouTube de Fabrice Ville. J'en ai pas écouté encore. Je vais essayer d'en regarder un en fin de semaine. Je suis sûr que c'est intéressant. Le festival Filministe, entièrement gratuit et virtuel cette année. 5 longs-métrages, 50 courts-métrages et plein de discussions live via la page... Voilà, du festival des tables... Oui, d'accord. Des tables rondes, des classes de maîtres. Le festival finit demain, donc pour des diffusions gratuites en direct, il reste pas grand temps. Mais pour revoir ce qui a déjà été diffusé, il faut s'abonner, moyennant des frais quand même assez abordables, à la plateforme TENK, T-E-N-K, qui est une plateforme québécoise assez militante, qui présente des documentaires locaux et internationaux. Donc, plein d'autres belles découvertes à faire si vous vous abonnez à TENK. Seul long-métrage québécois de l'édition 2021 de Filministe, le documentaire Traversée, 2020 de Caroline Côté et Florence Pelletier, qui relate le périple de 5 femmes dans le parc national Kuurujuaq au Nunavik. Quelques 3 petites suggestions en vrac et je termine avec ça. Nous nous soulèverons de la cinéaste, artiste multidisciplinaire Natacha Canapé-Fontaine. Ça date de 2015. L'Escale, une coproduction Suisse-France-Grèce de 2013. Je fais un résumé très court. À Athènes, Amir, immigré iranien, son petit logement est devenu un lieu de transit pour des migrants qui, comme lui, ont quitté leur pays et qui ne font que passer par la Grèce pour rejoindre d'autres pays occidentaux. Et dernière suggestion de film que vous pourrez voir, La jungle te connaît mieux que toi-même, coproduction Belgique-Colombie de 2017, entre la violence et la ville et la sérénité quasi mystique de la jungle. Un frère et une sœur évoquent leurs sentiments face aux souvenirs de leur père mystérieusement disparu. Je ne sais pas s'il y a des histoires de minières canadiennes derrière tout ça. Il faut voir le film pour le savoir. Et pour plus d'inspiration, on consulte le site festivalfilministeaupluriel.com.
Hey, merci Simon pour toutes ces suggestions plus intéressantes les unes que les autres.
Ben merci à toi Marie-Ève aussi.
N'oubliez pas également que lundi le 15 mars a lieu la traditionnelle manifestation de la Journée internationale contre la brutalité policière. Et c'est la 25e édition cette année. Et cette année, le thème c'est, devinez,
C'est en lien avec la brutalité policière.
Abolissons la police.
Yes, Mathieu, bravo, de
Marceau
de robot.
Et ce n'est pas que sur la page Facebook, là.
Non, il n'y a pas de Facebook, laissez au BP. Non,
fait parfait. Que le départ, donc c'est ça, donc la manif du COBP part, en tout cas le rassemblement est à 17h au Métro Parc, donc ce lundi 15 mars. Une petite nouvelle en terminant, vraiment toute courte. On a parlé à plusieurs reprises dernièrement de génération identitaire. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est officiel. Cette organisation xénophobe a été officiellement dissoute le 3 mars par le gouvernement français.
Dissoute, hein?
Dissoute. Dissoute.
Emmanuel Valls, il va faire quoi, là?
Il va la recréer sous un autre nom.
Ah, d'accord. Bon.
Merci, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été à l'écoute. Merci à vous deux, Simon et... Mathieu, pour vos commentaires toujours pertinents et votre formidable travail.
Merci pour les fous rires, Marie-Ève. T'as mené l'émission comme... C'est quoi l'expression, là?
C'est comme de main de maître.
Voilà, merci, Jean.
Voilà.
De main de maîtresse, Simon.
Bon.
D'hôtesse.
Seigneur. On va prendre une petite pause dans 2 semaines.
Je pense que t'as raison.
Non, sérieusement, on va prendre une petite pause dans 2 semaines, mais on vous revient le 8 avril comme 3 seuls apatrides anonymes savent le faire. Et on se quitte sur une nouveauté du groupe post-rock expérimental montréalais Ce qui nous traverse. La pièce s'intitule Intempestive. Les ventes en ligne de la pièce vont être versées à la campagne On ne laisse personne derrière, qui est une campagne qui a été lancée par des groupes communautaires de Montréal pour soutenir les personnes en situation d'itinérance qui sont particulièrement impactées en ces temps difficiles de pandémique. Alors, eh bien, voilà.
Ce qui nous traverse, c'est un groupe qu'on aime bien. C'est un nouveau single. Oui. Il y a un beau vidéo aussi, genre le show qui a été filmé aussi sur YouTube pour accompagner la pièce et un album qui s'en vient bientôt.
Merci Mathieu pour ces compléments d'information. Cool. Et on se dit bon salut et
bonjour,
au 8
bonsoir,
avril avec un mois d'avril déconfiné.
Bonne soirée.